Alors que les gouvernements recherchent désespérément des énergies nouvelles, un mécanicien a en effet inventé un moteur révolutionnaire qui fonctionne avec un nouveau carburant.
La voiture continuera à rouler tout aussi longtemps que vous avez une bouteille d'eau à l'intérieur de la voiture et que vous remplissez cette bouteille de temps en temps.
Impatience.rsr.ch Sapristi, c'est tout un programme.
Science-fiction, qu'est-ce qu'on va dire ? Alchimie, oui, on ose le mot. Comment faire du carburant propre ? De plus en plus de chercheurs se posent cette question et nombreux sont ceux qui ont trouvé une solution praticable, en tout cas sous cloche, en laboratoire, Sylvio Dolzan.
Effectivement, un des derniers exemples, c'est un engin. C'est un engin qui produit du syngaz. Ce syngaz, c'est un gaz de synthèse qui peut être à la base d'essence, de kérosène, enfin à peu près tous les carburants pour les moteurs traditionnels hein, à explosion. Alors les ingrédients de la recette sont tout simples en fait. Hein, vous prenez une bonne louche d'eau, un ou deux verres de CO2, une petite cuillère d'oxyde de cérium, ça c'est un métal qui est utilisé habituellement pour le polissage du verre ou alors dans les fours auto-nettoyants. Et surtout, vous prenez beaucoup de lumière. Ça, c'est la grande nouveauté. Alors cet engin, il existe. Il est issu d'une collaboration entre l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, le PSI, le Paul Scherrer Institute, et puis le Caltech, donc l'Institut de Technologie de Californie. Et en l'occurrence, c'est le professeur Aldo Steinfeld qui a mené la recherche à l'Institut de Technologie de l'EPFZ. Et le prototype de ces réacteurs à syngaz, on appelle ça un réacteur thermochimique, il est en développement dans un des laboratoires de l'EPFZ. On va faire connaissance avec la bête en compagnie d'Emilie Zermatten, elle est doctorante, une des doctorantes du groupe du professeur Steinfeld. On va rentrer dans cet antre très bruyant et où il y a une intense lumière.
Madame Zermatten, on est maintenant devant ce réacteur thermochimique, c'est bien ça ?
Oui, exactement.
Qui permet en fait de produire le syngaz, c'est-à-dire une base en fait de carburant, à partir d'eau, de CO2 et de la lumière.
Voilà, exactement.
Expliquez-moi comment ça se présente.
Alors en fait, dans la réalité, on utilise un champ de miroir pour concentrer les rayonnements du soleil. Mais ici, en laboratoire, on a un simulateur solaire, donc ça simule les rayons du soleil. Ici, on a des miroirs paraboliques qui donc envoient des rayons sur notre réacteur solaire. Et ensuite, donc tous les rayons sont concentrés dans une cavité et ça chauffe l'intérieur de la cavité pour produire des réactions chimiques.
Les miroirs paraboliques, il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ?
Oui.
Et ils font quoi ? Un mètre de diamètre en gros ?
Oui, mais ça c'est juste le simulateur. Donc en vrai, on utilise des miroirs beaucoup plus grands et avec une énergie beaucoup plus grande.
D'accord, oui, c'est déjà assez violent quand même.
Oui, c'est déjà fort.
L'ampoule là, qui est au milieu en fait, des 8 réflecteurs, elle est extrêmement violente. Ça équivaut à quoi comme puissance ? On peut l'exprimer ?
Donc la totalité, on peut aller jusqu'à 5000 soleils en fait. Donc l'équivalent de 5000 fois la lumière du soleil. Là, on travaille environ à 1500, mais on peut aller jusqu'à 5000 pour certaines expériences.
On a l'image du bruit, bain de lumière. Qu'est-ce qu'elle devient toute cette lumière ?
Alors les miroirs vont la concentrer, cette lumière, vers une sorte de gros entonnoir. Hein. C'est quelque chose de 50 cm de long sur 25 cm de diamètre en gros. Hein. Alors dans l'entonnoir, caché derrière une vitre, il y a un petit peu de ce fameux oxyde de cérium. C'est un matériau poreux comme ça. Donc j'ai donc bien dit oxyde de cérium et pas cérium seulement, hein, donc avec un peu d'oxygène en plus. Ça faut bien le retenir, j'insiste, parce que c'est important. C'est même, vous verrez, la clé du processus. Alors qu'est-ce qu'elle fait la lumière ? Eh bien évidemment, elle chauffe l'oxyde de cérium. Et quand il est chaud, on injecte dans l'appareil un peu d'eau et un peu de CO2. Et c'est là qu'intervient l'alchimie, ou plutôt la chimie.
C'est un cycle en deux étapes. Donc la première étape, c'est que lorsqu'on chauffe, on réduit l'oxyde de cérium, donc ça veut dire qu'on lui enlève de l'oxygène. Ensuite on met le CO2 et l'eau, et l'oxyde de cérium va en fait prendre de l'oxygène à ce CO2 à l'eau et donc les réduire. Donc ensuite on n'aura plus que du CO et de l'hydrogène, donc du H2, et c'est ça qui constitue le syngaz, donc notre gaz de synthèse.
tout bien compris, Nancy ?
Rien du tout.
Bon, d'accord. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la clé, c'était l'oxygène, hein, la clé de cette alchimie. Alors, en fait, quand il chauffe, hein, on l'a entendu, l'oxyde de cérium, eh bien, il va perdre son oxygène. Et en fait,
donc il perd son eau.
Il perd son eau, si vous voulez, et il va piquer une partie de celui qui se trouve dans H2O, donc dans l'eau, et puis dans le CO2. Donc au bout du compte, on n'aura plus que du H2, de l'hydrogène, et du CO, du monoxyde de carbone. Et ces deux produits, ces deux composants, sont les composants chimiques de base des carburants de moteurs à explosion. Alors, vu la chaleur dans laquelle tout ça se passe, on obtient un mélange sous forme gazeuse, d'où le nom de syngaz pour gaz de synthèse.
Mais ce qui ne fait pas encore du carburant pour aller dans une voiture, par exemple.
Pas tout à fait. On n'est pas très loin, en fait. D'ailleurs, le procédé pour obtenir du véritable carburant utilisable à partir de syngaz, il est simple, on va pas l'expliquer maintenant, il est connu d'ailleurs depuis très très longtemps. Par exemple, pour vous dire que ça fait longtemps, l'armée allemande a utilisé ce principe, donc le syngaz et du carburant, durant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle manquait de pétrole, parce que, par exemple, les Russes avaient repris les champs pétrolifères des rives de la mer Noire.
Mais alors, c'était connu. Qu'est-ce qu'il y a de neuf aujourd'hui ? C'est l'utilisation du soleil ?
Ben oui, c'est la source de chaleur, justement. Parce que les Allemands, par exemple, et après, quand on a continué à produire du syngaz, ben pour chauffer, on chauffait au charbon, ce qui n'est pas très bon d'un point de vue écologique. Alors le grand exploit des chercheurs zurichois, c'est d'y arriver avec la lumière, en l'occurrence la lumière du soleil réel, là une lumière artificielle. Parce que du coup, ils parviennent à produire une essence qui est neutre en carbone, rien que ça.
Mais il faut du soleil, il faut être dans un pays. Zurich, ce n'est pas tout à fait l'endroit le plus ensoleillé du monde.
Effectivement, il faudra du soleil, et là on est à 1500 soleils, on l'a entendu, hein. Mais il faudra du soleil. Alors le but, si vous voulez, à la fin, c'est d'installer ça, par exemple, vous savez, dans ces grandes centrales solaires où il y a plein de miroirs qui font face à une grande tour. Mmh. Et tous les rayons du soleil sont concentrés à un point au sommet de cette tour. Alors là, généralement, maintenant, derrière, dedans, on fait passer un liquide qui chauffe. Avec ce liquide, on fait tourner une turbine, puis on fait de l'électricité. Alors il n'y a qu'à remplacer, en fait, ce petit point comme ça, par le petit entonnoir avec du cérium et de faire la même chose. Et là, on aura aussi une puissance de multiplier, quoi, du soleil. Bon, pour le moment, effectivement, hein, il en faut beaucoup, beaucoup de lumière, hein, pour produire. Hein. Rappelez-vous, on a dit que l'ampoule, c'était 1500 soleils. Et le rendement de ce prototype, parce qu'il faut quand même parler un peu pratique, le rendement, il est de 0,8%, c'est-à-dire que l'énergie qu'il produit en syngaz équivaut à moins d'1% de celle qu'il utilise pour le fabriquer. Donc ça paraît vraiment
parentable.
C'est dérisoire, parentable. Pourtant, ça paraît comme ça absolument ridicule. Pourtant, c'est déjà plusieurs dizaines de fois mieux que ce qu'on arrive à faire avec d'autres procédés, dans la transformation de la puissance de la lumière solaire notamment. Et les ingénieurs de l'EPFZ sont convaincus qu'ils vont arriver à un rendement de 16%, et ça, ce serait franchement gigantesque. Alors, ils admettent quand même, parce que voilà, qu'il leur faudra plusieurs années de travail, de modification d'à peu près tous les paramètres de leur engin, la façon dont ils chauffent, l'intensité de lumière, la géométrie intérieure de leur fameux entonnoir. Il leur faudra des années avant de pouvoir le tester enfin avec le vrai soleil et dans des conditions réelles.
Parce que là, pour l'instant, on est toujours sous cloche dans un labo.
Ben oui, on est sous cloche dans un labo, comme d'ailleurs énormément de projets du même style. Il y en a beaucoup, hein, qui essayent, depuis quelques années en tout cas, beaucoup, disons, qui essayent d'arriver à cette essence propre. Mais leur efficacité n'est pour l'instant effectivement prouvée qu'à l'échelle du laboratoire, à l'échelle des prototypes comme à Zurich. Très très rares sont ceux qui ont dépassé ce stade et qui sont aujourd'hui testés à une échelle réelle, industrielle. Il faut bien avouer, si vous me permettez l'expression, qu'une bonne idée qui reste dans un laboratoire ne fait finalement pas avancer le schmilblick. Mais donc, c'est une vraie problématique, hein. C'est une vraie problématique que j'ai abordée avec Massimiliano Capezzali. Il est directeur adjoint de l'Energy Center de l'EPFL. Il se tient donc au courant de toutes les recherches en matière d'énergie, renouvelable ou non d'ailleurs. Et puis, d'abord, je lui ai demandé si effectivement ces idées d'alchimistes d'aujourd'hui étaient aussi nombreuses que ça.
Il y en a énormément. Effectivement, celle-ci est particulièrement intéressante parce que, notamment, elle est neutre du point de vue CO2. Elle permettrait d'aller dans la bonne direction. Je pense aussi à tout ce qui se passe dans le domaine des biocarburants, notamment essayer d'utiliser les algues pour créer des biocarburants. C'est aussi quelque chose qui est actuellement à la une, je dirais, des découvertes scientifiques dans ce domaine-là.
Il y en a partout, un peu dans tous les laboratoires, mais cette foison, en fait, cet engouement, est-ce qu'il date justement de la prise de conscience des problèmes climatiques ou environnementaux, ou est-ce qu'il y a toujours eu des recherches dans ce sens-là ?
Il y a toujours eu des recherches dans ce sens-là. Des fois, elles sont dues à des phénomènes comme des guerres ou des embargos, etc. Mais c'est vrai que c'était des choses qui peut-être avaient été un petit peu oubliées dans les 30 dernières années et qui reviennent, qui refont surface actuellement. La chimie est connue, mais simplement, il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas l'envie, il n'y avait pas la priorité pendant ces 30 dernières années de continuer à travailler là-dedans.
Alors ces recherches, pour la plupart d'entre elles, en tout cas, elles sont dans des laboratoires, et parce qu'en fait le plus difficile, c'est de sortir du laboratoire.
C'est effectivement le plus difficile, et des fois, pour des raisons techniques, on ne réussit pas à faire augmenter en volume ce qu'on a créé à petite échelle. D'un autre côté, on remarque dans plusieurs projets que souvent il y a un problème avec les matériaux eux-mêmes qui sont nécessaires pour faire l'une des étapes de ces technologies. Et ce sont souvent des matériaux qui sont soit rares, chers, ou voire toxiques, et qui donc rendent le scale-up, comme on appelle ça en bon français, en bon anglais, difficile.
Donc des matériaux rares et chers, ça veut dire qu'à l'échelle du laboratoire, on peut entre guillemets se les offrir, mais que ce serait beaucoup trop cher, enfin que l'énergie produite à la fin serait beaucoup trop chère à l'échelle industrielle.
Exactement. Donc c'est soit une question purement économique, ou bien une question que si ces matériaux sont rares et donc difficiles à trouver, le bilan écologique final risque de ne pas être si positif que ça.
Vous parlez de matériaux rares, difficiles à trouver, donc ça veut dire qu'on entre en quelque sorte dans une quête de nouvelles matières premières ?
On est dans une quête de nouvelles matières premières. Je pense que tout le monde est au courant des discussions qu'il y a autour du lithium que nous avons tous dans nos portables, dans nos téléphones portables, etc. Et on ne sait pas très bien, au fait, où en sont les réserves mondiales pour une chose qu'on utilise déjà à grande échelle. Et pour des matières encore plus rares, c'est vrai que ça devient une nouvelle quête et ça devient de la géopolitique pure.
C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certaines ressources qui se trouvent dans des pays, comment on va dire ça, plus difficiles d'accès ?
Exactement, plus difficiles d'accès et qui sont souvent encore moins bien répartis du point de vue géologique que ne l'est le pétrole ou le gaz naturel.
Bon, il ne reste pas moins que l'avenir énergétique à court et moyen terme, en tout cas, il ne sera pas forcément basé sur ces idées. Qu'est-ce qui sera, à votre avis, dans 25 ans ? Avec quoi on va se mouvoir, se propulser dans 25 ans sur Terre ?
Du point de vue des transports, pour les transports individuels, je pense que c'est vraiment l'électrique qui va être un mode de traction qui va pénétrer très massivement, qu'il soit sous forme hybride ou totalement électrique. Par contre, il y a tout un pan des transports, le transport aérien, le transport lourd, qui ne pourra pas se passer de carburant liquide. Et c'est là que la recherche comme celle que fait le professeur Steinfeld est extrêmement utile, parce que pendant de très très longues années, pour ces secteurs-là, on aura besoin de carburant liquide et des carburants qui ont meilleur bilan CO2, en tout cas, que ceux qu'on utilise actuellement.
Alors merci à Massimiliano Capezzali, directeur adjoint de l'Energy Center de l'EPFL, ainsi qu'à Emilie Zermatten, doctorante du groupe du professeur Steinfeld, qui vient d'être mentionnée. Alors, Silvio, on parle de ces terres rares d'énergie propre, certes, mais ce ne sera pas moins cher parce que ces terres sont rares et coûteuses.
Effectivement, et d'ailleurs, le cérium, dont on utilise un oxyde dans le fameux entonnoir de l'EPFZ, c'est une de ces terres rares. Bon, c'est une des plus abondantes en l'occurrence, mais c'est une de ces terres rares. C'est un excellent exemple de ce qu'a dit Massimiliano Capezzali. On arrive maintenant à une nouvelle ruée vers l'or, mais on ne s'intéresse plus ni à l'or ni au pétrole, mais à d'autres éléments comme le palladium, le lithium, le cérium qu'on a là, et des choses dont on n'est pas certain d'en trouver assez, parce qu'on n'a pas encore vraiment connaissance de toutes les réserves. Et d'autre part, les réserves qui sont connues sont, par exemple, en Chine ou ailleurs, ou dans certains pays d'Afrique que la Chine est en train d'ailleurs économiquement de coloniser. Donc du coup, il y a vraiment des problèmes géopolitiques qui s'annoncent.
Et je vous rappelle, juste en passant, que c'est l'année de la chimie et que nous sommes en train de constituer plein de définitions, de mots et de matériaux rares ou pas d'ailleurs.